Dans les langues que vous connaissez, existe-t-il une forte pression à bien parler ou écrire ? Si je prends le français, qui est ma langue natale, forcément, ça va être bien vu de bien parler et de bien écrire, mais je pense que ça, c'est le cas dans toutes les langues. Et je sais que des fois, il y a certaines personnes étrangères qui disent que les Français, ils ont tendance à être assez durs sur les fautes de langage, qu'ils sont un peu impitoyables des fois, alors qu'il y a des subtilités qu'on n'a pas forcément en tant que personne étrangère. Après, une forte pression dans la vie de tous les jours, non, pas du tout. Le langage qu'on va employer, il va dire potentiellement beaucoup sur nous, il va renvoyer une certaine image, forcément. Ça peut parler sur notre origine sociale, éventuellement, des choses comme ça.
Est-ce que toi, t'as déjà corrigé des gens sur leur façon de parler, ou bien on t'a déjà corrigé sur ta façon de parler ?
Ça m'arrive des fois de corriger, je le fais pas tout le temps, parce que des fois ça me met mal à l'aise, puis des fois les gens l'aiment pas, donc je fais gaffe. Mais oui, ça m'arrive qu'on me reprenne, ouais. Surtout mes parents, quoi. Moi, je m'appelle Arthur, je suis un élève en sciences politiques, je suis en deuxième année, je suis à Paris 8.
C'est vrai que les personnes que je connais pas, je vais pas les corriger parce que, en fait, je me dis, je connais pas la personne, je connais pas du tout son passé, comment elle va le prendre. Mais c'est vrai que je devrais pas forcément le faire pour mes proches aussi, parce que je me permets un petit peu cette manière de juger, de les corriger, parce que je me dis, oh, je les connais. Donc j'ai un peu cet automatisme de dire, ah non, mais on dit pas ça. Par exemple, si j'aurais pas fait ça, j'aurais... Et je leur dis toujours, ah non, mais les si n'aiment pas les ré. Enfin, c'est un peu mon... ma manière de les corriger et de leur donner aussi un mémo technique. Et c'est vrai que c'est vraiment un automatisme, mais j'essaye de travailler sur moi et de me dire, mais si tu le fais pas avec les autres que tu connais pas, pourquoi tu le fais avec tes proches ? Et est-ce qu'on a déjà corrigé mes erreurs ? Oui, notamment en français. C'est vrai que mes parents étaient assez stricts quand même sur la langue française et sur les dictées. J'avais souvent des dictées à la maison. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt en France qu'on se corrige un peu plus, vraiment plus souvent, en tout cas de manière un peu plus décontractée. Parce que c'est en partant justement à l'étranger où je me mettais énormément la pression, notamment quand j'ai appris le japonais. Je voulais vraiment avoir un japonais assez parfait parce qu'ici, on mettait beaucoup la pression, on corrigeait souvent mes fautes, même en japonais, les professeurs, etc. Et c'est vrai que mes premiers voyages, la plupart des japonais me disaient « Oh, c'est marrant, c'est mignon, tu parles très scolairement, c'est un peu trop parfait. » Et quand j'y suis retournée vraiment pour vivre plusieurs mois, en fait, à la fin, on me disait « Oh, bah, tu parles comme nous. » Et je me suis dit « Ah !» C'est ça en fait, et c'est le fait qu'on ne corrige pas, et aussi à l'étranger, le fait qu'on se fasse une petite faute de grammaire ou une petite faute de prononciation, bah, les gens ils se disaient, bah non, je la comprends. C'est en voyageant à l'étranger que je me suis dit, mais au final, corriger quelqu'un, ça ne sert à rien. Enfin, il faut laisser la personne vivre son rapport à la langue, et peut-être que la personne va s'auto-corriger, mais ne pas en fait corriger les erreurs de la personne qu'on a autour de nous. Même dans les pays anglophones, lorsque je parle anglais, les gens ne disent pas « Oh, non, c'est pas comme ça qu'on dit ou... ». Et pareil au Japon, pas du tout, au contraire. On disait « Waouh, c'est super, vous parlez japonais ». Pas du tout dans ce jugement « Ah non, mais c'est pas du tout comme ça qu'on dirait en japonais » ou « Ah, ta phrase, elle est à l'envers » ou « On comprend pas ». Au contraire, ils s'intéressent à pourquoi vous apprenez cette langue. Et je trouve que c'est très français de corriger vraiment cet automatisme. Et pas du tout se dire « Ah bah, ok, elle a fait une faute, on continue la conversation. » C'est vraiment « Attends, je te corrige, ensuite on continue la conversation pour que ça ait du sens. » C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas dans la langue française. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans et je suis médiatrice linguistique à la bibliothèque de Paris 8.
Pensez-vous toujours utiliser la double négation à l'écrit et à l'oral ? Ça dépend du contexte et de mon interlocuteur aussi. Souvent, comme je suis dans le cadre où je parle avec des amis ou des proches, je m'en sers pas beaucoup, la double négation. À part peut-être, personnellement, pour le mot « je ne sais pas ». Mais sinon, en général, je l'utilise pas du tout. C'est rare. À part à l'écrit, dans un cadre plus formel. Y a-t-il des mots que vous trouvez beaux, laids ou ridicules ? Alors, oui. Comme tout le monde, je pense, ou je sais pas. Il y avait un mot que je trouve beau, j'arrive pas très bien à le prononcer. C'est exacosio, exéconta, exaphobie. Alors, comment le définir ? C'est un peu la peur du satanisme. C'est la peur du chiffre 666. Beaucoup l'associent au satanisme, au diable. Et j'adorais ce mot. J'ai essayé même parfois de le caler un peu partout. C'est un peu compliqué. Mais parfois, j'essayais de bifurquer un peu. Quand on parlait d'un truc et puis quelqu'un faisait une blague avec le diable ou quelque chose. Et puis, je le mettais comme ça. Ah, t'es exacosio, exécontaphobe. Et puis ça veut dire quoi ça ? Et puis hop, j'étalais ma science. Voilà. Je m'appelle Chamis Mansila. Je suis étudiant en licence théâtre à Paris 8 et voilà.
Avez-vous déjà eu honte de votre façon de parler? Pourquoi? Je pense que j'ai déjà eu honte, oui, parce que je suis du genre à parler très vite et j'articule pas trop. Mais c'est plus lié un peu genre au fait que quand j'étais petite, j'avais des problèmes orthodontistes, etc. Mais c'est pas une honte de manière, qui va m'empêcher de m'exprimer, par exemple. Voilà, ça va juste être très consciente de la manière dont je parle, plus que une honte où je vais pas vouloir prendre la parole en public, des trucs comme ça. Dans des conversations, par exemple, qui vont être spontanées, je vais parler très vite. Enfin, je l'entends, je le ressens moi-même. C'est pas forcément des remarques qu'on a pu me faire, ou les seules remarques qu'on peut me faire, c'est pas vraiment blessant. C'est juste tu parles vite, par exemple. Mais j'en suis consciente de moi-même, donc voilà. Je m'appelle Léa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en sciences politiques actuellement. Voilà.
Quand vous écrivez un texte ou un email, faites-vous attention à l'orthographe, à la syntaxe? Bah oui, évidemment, surtout s'il s'agit d'un email professionnel ou pour une entreprise ou bien, je sais pas. Quand il s'agit de quelque chose de sérieux, je fais vraiment attention.
Et est-ce que l'email, c'est plus sérieux que le texto?
Oui, je trouve que l'email est très sérieux de texto parce que l'email, il y a les normes et qu'il faut quand même respecter. Il y a l'objet, il y a... Voilà, elle est cadrée en fait.
Et quand tu écris un texto, est-ce que ça t'arrive de faire des raccourcis?
Sincèrement, non. Sincèrement, je n'utilise pas les raccourcis. C'est la personne, je la connais bien. Je vais écrire spontanément, même si je faisais des erreurs, même si j'ai oublié un mot normal. Mais une personne inconnue, voilà, je faisais attention, voilà.
Que pensez-vous de l'écriture inclusive? Est-elle ou devrait-elle être intégrée dans la norme du français écrit et oral? Je trouve que c'est une bonne initiative, une réflexion sur cette fameuse règle qui m'avait choqué en CP de « le masculin l'emporte sur le féminin ». Devrait-elle être intégrée dans la norme du français écrit et oral? Ben, y a plusieurs normes, il y a plusieurs écrits, plusieurs français oraux. Il y a aussi plusieurs écritures inclusives. Moi, j'aime bien, par exemple, la recommandation de favoriser des mots qui existent et qui n'ont pas de forme dite inclusive parce qu'ils le sont déjà naturellement quand on peut le faire. Donc ça, c'est un bon réflexe. Et pour ce qui est de l'écriture, par exemple, typiquement le point médian, des choses comme ça, oui, ça peut être assez facilement intégré puisqu'en fait, on a déjà des formes inclusives mais qui sont plus lourdes. Donc l'usage pralois, et en fait il y a plein de formes inclusives qui s'intègrent assez naturellement. Certaines inventions sont trop lourdes et donc elles n'arrivent pas à s'imposer. Donc il y en a plein, c'est très riche et naturellement on va en trouver des efficaces qui seront adoptées assez facilement par les gens, quoi qu'ils en pensent en fait. Si elles sont efficaces, ça va marcher.
Et toi au quotidien, est-ce qu'il y a des formes que tu utilises?
Ouais, j'essaye d'utiliser le yel. C'est pas simple, parce qu'il y a l'hiatus qu'on n'aime pas en français, qu'il faut s'habituer à prononcer, que oui, c'est un effort en fait, mais ça rentre à peu près. Après, il y a des contextes sociaux qui rendent la chose délicate, puisque c'est un sujet politiquement délicat, et donc parfois ça pourrait me venir naturellement, mais en fait je m'auto-censure finalement, parce que je ne suis pas sûr que les personnes à qui je m'adresse le reçoivent bien, ou qu'elles ne me portent pas un jugement qui pourrait me porter préjudice d'avance. Et que j'ai pas forcément toujours non plus envie et l'énergie de défendre cette position, parce que j'ai juste envie d'exprimer une idée très simple. Je m'appelle Samuel, je travaille à la bibliothèque de Paris 8. J'ai été étudiant à Paris 8, notamment en lettres. Et donc c'est des questions que je travaille activement.
Parlez-vous différemment selon la personne avec qui vous êtes? Moi, je suis un peu bilingue, en fait, voilà, parce que donc, j'ai appris l'espagnol. Et donc, l'espagnol se glisse très facilement dans mon français et le français dans l'espagnol en fonction de mes interlocuteurs. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe des affects, en fait, dans ça. Bon, voilà, je ne sais pas si je sais t'en dire plus que ça, mais voilà.
Est-ce que c'est quelque chose qui infuse ta façon de parler au quotidien?
Ah ouais, mais carrément. Et du coup, ça passe comme ça, tu vois. Ça relève de l'insu. C'est comme des lapsus, tu vois, qui passent comme ça. Alors, du coup, ça suppose ensuite, en retour, de faire de l'explicitation de ce que ça veut dire. Désolé, excusez-moi, voilà, je me suis trompé. Enfin, pas trompé d'interlocuteur, mais du coup, il y a quelque chose qui est passé qui n'était pas prévu. Voilà, mais je vous le dis, je vous l'explique. Et voilà. Et je repasse ensuite au français. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très contrôlé comme ça. Mais ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est spontané, qui se libère comme ça. Alors ensuite, parfois, il faut réajuster un peu pour qu'on soit dans la bonne modalité, la bonne relation. mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Voilà. Moi, je suis Brice, voilà, et du coup, je suis directeur de l'UFR à Paris 8, l'UFR de langue, voilà.